Bonjour David, bonjour à tous. Les chiffres clés de l'activité de la Chambre de métiers de l'artisanat présentés tout récemment, mais également les conclusions d'une enquête de conjoncture. Financièrement, la ville de Mauléon se porte très bien. Pour preuve, le débat dans son budgétaire en ce début de semaine n'a pas suscité d'interrogations. Même s'ils ne sont pas rangés aux oubliettes, certains projets à Thouars devront rester dans les cartons cette année. Nous ferons le point avec le maire. Il s'appelle Éric Simon. Ce jeune retraité bressuré va s'élancer en avril pour un tour d'Europe à vélo en faveur d'une association de sensibilisation à l'autisme des enfants. Quant à la météo, le temps restera gris et pluvieux cet après-midi. Pas de blocage, mais des ralentissements hier toute la journée appartenaient aux plus d'une vingtaine d'entreprises du BTP ont stationné essentiellement des véhicules de chantier aux abords du rond-point dit de la carte sur la Nationale 149. Une opération menée afin de réclamer également la non-augmentation de la taxe sur le gazole non routier pour leur secteur d'activité à l'instar du monde agricole. Fin janvier, la Chambre de métiers de l'artisanat a présenté les chiffres clés en Nouvelle-Aquitaine et les résultats d'une enquête de conjoncture. 174 000 entreprises de l'artisanat sont répertoriées dans la grande région, dont près de 7 950 dans les Deux-Sèvres, département dans lequel le bâtiment arrive en tête devant le secteur des services, mais courte tête, 37 contre 36%. La création d'entreprises est toujours dynamique, avec près de 15 000 nouvelles, dont 625 en Deux-Sèvres. Le nombre d'apprenants est de 12 791 aujourd'hui, contre 12 667 l'an passé, soit une petite progression de 0,75%. La forte croissance des dernières années n'est plus l'objectif, car il s'agit plutôt maintenant de privilégier la qualité plus que la quantité. Quant à la baisse des financements de l'État, Gérard Gomez, le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, espère encore une évolution de la part du gouvernement alors que la moitié des formations sont déficitaires.
Nous allons malgré tout essayer de faire face pour garder en place un maximum de filières et ne pas avoir à fermer soit des formations, soit des établissements. Parce que là, c'est le pire des messages. Donc nous allons continuer à porter les formations que nous portons aujourd'hui en espérant, et le gouvernement nous l'a promis, une nouvelle concertation en ce début d'année, qu'on puisse arriver à sauver la rentrée 2024 et à repartir sur des financements qui nous permettent d'assurer l'avenir de façon un peu plus solide que ce que l'on a aujourd'hui.
La Chambre de métiers de l'artisanat a profité de cette rencontre avec la presse pour présenter les résultats de sa propre enquête de conjoncture. Il ressort que la majorité des artisans demeure relativement confiante, hormis dans le secteur alimentaire, particulièrement impacté par l'effet ciseau conjugant. Hausse des charges d'un côté et baisse du pouvoir d'achat des consommateurs de l'autre.
Plus de la moitié des dirigeants d'entreprises artisanales abordent 2024 avec confiance. Ce qui leur importe le plus aujourd'hui, c'est de trouver de nouveaux clients. C'est vraiment cet aspect de développement commercial et de la relation client qui est vraiment le défi numéro un à relever dans les prochains mois pour nos entreprises artisanales. Par rapport à la situation financière des entreprises, 49% des répondants du secteur de l'alimentaire se disent aujourd'hui en situation critique pour leur survie. C'est le secteur le plus fragile.
Gérard Gomez, le président de la Chambre de métiers de l'artisanat en Nouvelle-Aquitaine. J'en profite pour vous indiquer que la Chambre de métiers de l'artisanat organise deux matinées portes ouvertes ce samedi de 9h à 13h sur les deux campus de Sévrien, à Niort et Parthenay. Les futurs apprentis auront ainsi la possibilité d'échanger avec les équipes pédagogiques et de visiter les espaces de formation et les lieux de vie. Rappelons que les CFA proposent un grand choix de formation dans notre département dans de nombreux secteurs. Alimentation, hôtellerie, restauration, mécanique, bâtiment, vente, assurance, coiffure, pharmacie, métaux, énergie, bois ou encore transport et logistique. Les candidats auront la possibilité à l'occasion de ces portes ouvertes de se préinscrire sur place. Et puis toujours dans l'actualité des CFA de Sévrien, Thierry Marx, célèbre chef cuisinier et président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, rencontrera les apprentis du centre de formation de Niort lundi prochain. Ce dernier est attendu sur place à partir de 9h. La ville de Mauléon affiche une belle santé financière. Les orientations budgétaires ont été présentées lundi soir en conseil municipal. Il n'y a pas eu de débat, dont la présentation d'Yves Chouteau s'est montrée convaincante. La municipalité a su conserver une bonne capacité d'autofinancement par la maîtrise de ses dépenses, a souligné l'adjoint au maire en charge des finances, au micro colline de Fabien Gazot.
La situation, c'est vrai qu'elle est, elle est bonne, elle est très bonne même. Un ratio de désendettement à 3,5 année et une capacité donc d'investissement, on est sur un régime de 4 millions d'euros par an, c'est quand même intéressant. Ce travail de désendettement, clairement, il a été fait sur le mandat passé, on était resté plus peut-être prudent aussi sur les investissements et on a donc bien diminué donc notre dette et on a augmenté en même temps aussi, il faut le dire, notre capacité brute d'autofinancement, donc c'est elle aussi qui permet d'avoir une bonne vue sur les années à venir.
Yves Chouteau a annoncé des investissements à hauteur de 4 millions d'euros pour l'aménagement de la voirie et des réseaux, la préservation du patrimoine et l'amélioration des bâtiments communaux et des équipements existants, le développement de l'espace public, mais aussi l'acquisition de matériel. Et puis, à l'évocation des finances de la ville, le maire de Mauléon reconnaît dormir sur ses deux oreilles. Pierre-Yves Marolo.
Le maire de Mauléon que je suis est très serein, il l'est moins en tant que président d'Aglo, mais c'est vrai que nous avons des chiffres qui sont bons, et c'est la conséquence aussi d'un travail rigoureux, d'un gros travail aussi de nos collaborateurs. C'est vrai qu'on a réussi à mener des projets qui ont été bien aidés, il faut le reconnaître.
Un petit mot sur les charges de personnel qui augmentent. Vous l'avez dit, il y a eu un effort particulier, alors parfois imposé, mais il y a quand même cet effort particulier de la ville.
Oui, on a mis en place des tickets restaurants depuis l'an dernier. On va ce que j'ai annoncé au personnel lors des vœux au personnel, voter la prime inflation, alors pas au maximum, mais quand même à une belle hauteur. Donc tout ça, c'est des efforts que l'on fait. On a mis en place aussi un service d'astreinte, et évidemment, ceux qui participent à ce service sont rémunérés. On a des bonnes équipes, des gens qui sont fidèles, des gens qui ne ménagent pas leur temps, leur peine. Donc c'est un juste retour des choses par rapport à nos salariés.
Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon, qui avait d'ailleurs ouvert cette séance de conseil par un hommage appuyé à Philippe Rousseau, récemment décédé. Il était une pièce maîtresse de la vie municipale mauléonaise où il a effectué toute sa carrière. A l'inverse, ce que l'on ne verra pas à Thouars cette année, qu'il soit conduit par la municipalité ou par la communauté de communes, les grands travaux du centre-ville de Thouars sont en route, les pistes cyclables, le réaménagement des places Lavaux, Flandre, Dunkerque et Bleuel, et la médiathèque. Ces chantiers mobilisent toute l'attention des élus, mais aussi les budgets des contribuables, sans pour autant les mettre dans le rouge. Conséquence, d'autres projets toircés, des pâtés de maison appelés des îlots, restent sur la touche. C'est le cas notamment de l'îlot Berton, entre Jeanne d'Arc et Saint-Médard. Lors d'un conseil municipal en 2021, une étude opérationnelle avait été annoncée par le maire. Depuis, une autre verrue est entrée en scène, l'îlot Jacques Prévert. Une partie du toit menace en effet de s'effondrer. Un problème ou une solution ? La réponse de Bernard Pénaud au micro-colline de notre correspondant toircé Dominique Hérault.
On peut le voir de deux façons. Soit c'est un énorme problème à résoudre, soit c'est une énorme opportunité à saisir. Alors c'est entre les deux, bien sûr. On a fait l'acquisition de tout le foncier qui est lié à ce quartier, qui comprend la future ancienne médiathèque une fois qu'elle sera déménagée. Et donc dans ce lieu qui est à peu près à 150 mètres du cinéma, 150 mètres du marché et en plein cœur de ville, il y a lieu de réhabiliter pour en faire de l'habitat, et c'est pas un projet qui démarrera en 2024. Les grues ne vont pas arriver tout à fait tout de suite, mais ça reste une vraie opportunité pour la ville de pouvoir accueillir des habitants, voire des services dans ce grand îlot qu'il nous faudra traiter dans les 5 ans qui viennent.
Pour être stratégique, Prévert piétine depuis 2 ans comme un caillou dans la chaussure de la municipalité. Le petit dernier de la série, c'est le secteur de la Folie près de la zone commerciale Leclerc. La volonté est d'en faire un poumon vert. Bernard Pénaud.
C'est un quartier qui appartient en grande partie à la SNCF, mais sur lequel nous aussi on a fait quelques réserves foncières quand il y a eu des opportunités. C'était le cas au dernier conseil municipal. Ça a fait recommuniquer sur la notion de forêt urbaine ou de zone végétalisée. Là aussi, on est sur une vision à long terme. J'ai rencontré le grand responsable de la SNCF pour voir ce qu'il voulait en faire. Rien n'est forcément facile. C'est un peu comme le sujet de l'îlot Prévert. où on maîtrise du foncier pour faire plutôt de l'habitat, de la restructuration urbaine. Là, c'est sur aussi le même terme, mais pour des choses qui peuvent être plus tournées vers l'environnement et la végétation.
Pas de date donc, c'est-à-dire sans précipitation et surtout pas au rabais, car la ville vise la qualité. On ne verra donc pas ces projets cette année. Reportage signé Dominique Hérault. Certains diront peut-être qu'il a un petit vélo dans la tête. Et c'est pourtant bien le nom de baptême du projet porté par Éric Simon. Ce jeune retraité, originaire de Bressuire, qui vit aujourd'hui à Angers, a décidé de se lancer dans un tour d'Europe en vélo. Ce dernier ne part pas dans l'inconnu, hein, puisqu'il a déjà dans les mollets, la traversée de l'Argentine, de l'Uruguay, une partie du Brésil, 1300 km, le canal de Nantes à Brest sur 450 km, 700 km sur la vélo-francette de Ouistreham à La Rochelle, ou encore la Loire à vélo sur 600 km. Le 20 avril prochain, au départ d'Angers, Éric Simon s'élancera pour 6500 km avec au menu la traversée du Jura, de la Suisse, la Bavière, l'Autriche, la Slovénie et l'Italie, avant de revenir en France par les Pyrénées. Éric Simon.
J'avais envie de faire quelque chose, comme on dit, quelque chose de ma vie. Évidemment, dès qu'on est à la retraite, on a beaucoup plus de temps et l'occuper intelligemment.
De quelle manière vous avez tracé justement ce parcours? Est-ce qu'il y a eu des critères particuliers?
Oui, il y en a eu un, c'est-à-dire que ça inquiétait évidemment ma femme et mes enfants que je sois sur la route 3-4 mois. Donc j'ai décidé de relier, on va dire, les véloroutes, ce qu'on appelle les véloroutes, et je me suis dit, autant prendre les plus belles. Pour avoir lu pas mal et vu pas mal de gens partir comme ça, ben on a peur de pas y arriver, on a peur des mauvaises, on peut avoir des mauvaises rencontres, mais bon, ça, la mauvaise rencontre, elle peut être au coin de la rue chez nous, hein. C'est aussi ce qu'on dégage, hein, par rapport aux autres. Donc je crois déjà beaucoup aux belles rencontres. Après les peurs, oui, bah il y a le peur de se faire mal et pas de finir le parcours, la peur de tomber malade et puis voilà des choses comme ça ou de je sais pas une fracture, je ne sais quoi. Je crois que dès qu'on monte sur le vélo et qu'on part la première journée, les peurs premier soir c'est oublié quoi.
80 étapes jalonneront le parcours d'Éric Simon et si son projet se réalise à titre privé, il a surtout un caractère solidaire puisqu'une cagnotte a été créée en ligne sur le site Litchi afin d'en faire bénéficier une association en lien avec les enfants en souffrance ou en situation de handicap. Les internautes sont ainsi invités dès maintenant à faire un don ou à acheter des kilomètres, les kilomètres parcourus par Éric Simon en faveur de l'association Le Grand Bleu, basée dans le Maine-et-Loire, association qui sensibilise aux troubles de l'autisme, notamment chez les enfants. Éric Simon.
La souffrance des autres, ça m'a toujours touché profondément, de voir les enfants malades, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire en associant ma passion et essayer de, je sais pas, bon c'est une petite chose, hein, c'est une goutte d'eau dans la mer. On a créé une cagnotte pour ça, hein, sur Litchi. Tout l'argent récolté sur la cagnotte ira à l'association, hein. D'ailleurs c'est l'association qui a créé la cagnotte. Moi je m'autofinance. Je vois la cagnotte est lancée, il y a déjà pas mal de dons et tous les dons sont importants, même les plus petits, hein. Ce qui est très intéressant sur les cagnottes, c'est que les gens, même modestes, peuvent cacher le montant. C'est-à-dire si ça, ils sont dérangés par le fait de donner peu, comme je répète, hein, toutes les sommes sont importantes. Donc on peut masquer son nom ou on peut masquer la somme.
Vous pourrez suivre le périple à vélo d'Éric Simon en faveur de l'association Le Grand Bleu sur Facebook, Insta ou encore TikTok. Départ donc d'Angers le 20 avril prochain pour un retour prévu le 10 juillet. Un nouveau festival va s'installer à Bocapaule. Les organisateurs de Japanior l'avaient annoncé lorsqu'il a fallu révéler que le Festival des arts japonais et des cultures imaginaires n'aurait pas lieu à Niort en raison d'un coût jugé trop important pour occuper les espaces de Neuron. On nous avait alors indiqué qu'il y aurait une autre proposition en 2024 sur le département. On en sait donc un peu plus sur ce nouveau projet baptisé Festival Boken Geek. Ce sera en septembre 2024 et ce sera Bocapaule. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le festival Marché Gourmand Coulon a annoncé sa programmation complète et elle sera très festive les 23 et 24 août prochains avec à l'affiche les Négresses Vertes, les Fatal Picard, Marcel et son orchestre, Larouda, San Severino, Sergent Garcia, Franchement ta gueule et Michel Mercury. Un petit mot de sport pour leur premier match au retour de Pro A de tennis de table. La Romagne s'est imposée hier soir à domicile, donc face à Chartres 3-1. Et puis en basket, pour le compte de la troisième journée du top 16 de BCL, les Choletais sont en déplacement pour affronter ce soir les Turcs de Tofas Bursa. Match à 18h.